La porteuse de pain, deuxième partie, chapitre 56 à 60.
Ah ! Fit Mary avec une intonation joyeuse. Le millionnaire poursuivit. J'ai reçu ce matin une lettre de mes clients. Ils me témoignent leur contentement et me félicitent de la haute intelligence du directeur de mes travaux. Père, veux-tu me faire plaisir?
Si je le veux,
je serais heureuse de fêter le retour de Monsieur Lucien. Prie-le de venir dîner avec nous le jour de son arrivée. Le désir exprimé par Mary s'accordait mal avec les idées de Paul Armand. Si, le jour même, comme c'était son projet, il portait au jeune homme le coup décisif qui devait l'amener à devenir son associé et son gendre, il comprenait bien qu'après un choc si rude, Lucien, violemment ému, ne pourrait accepter une invitation pour le soir même. Or, comment expliquer à Mary son refus? Quel prétexte mettre en avant pour éviter à la jeune fille une véritable torture? Il prit cependant une décision et se dit « Peut-être, quand il aura vu Mary, pâle, souffrante et toujours de plus en plus éprise, fêter son retour, l'entourer de soins et de prévenances, sera-t-il touché de tant d'amour et se décidera-t-il plus vite à rompre un mariage désormais impossible ?» La conclusion fut qu'il remettrait au lendemain de l'arrivée de Lucien l'entretien sérieux et décisif qu'il voulait avoir avec lui. « Ton désir sera satisfait, chère mignonne, » répondit-il. « Je regrette seulement que tu m'en aies parlé.
Pourquoi donc ?»«
Parce que je voulais te faire la surprise d'inviter Lucien sans te l'avoir dit. »«
Tu es bon, père, » s'écria la jeune fille en sautant au cou de Jacques Garot et en l'embrassant.
Enfin arriva le jour si impatiemment attendu. Mais, ainsi que nous venons de l'expliquer, Lucien, ayant avancé de 12 heures son départ de Bellegarde, Paul Armand ne l'attendait que le lendemain, tandis qu'il arrivait à Paris le soir. En descendant du chemin de fer, il courut au quai Bourbon. Les deux fiancés, les yeux pleins de douces larmes, tombèrent dans les bras l'un de l'autre avec une émotion attendrie. Puis Maman Lison reçut une accolade amicale. La digne femme avait elle aussi de grosses larmes dans les yeux. Il lui semblait presque retrouver un fils. Ensuite, d'un côté comme de l'autre, les questions se succédèrent. Lucie, dans ses lettres, avait tenu son futur mari au courant de la situation et raconté l'attentat dont elle avait été victime, mais gardait le silence au sujet de la démarche récente faite auprès d'elle par le juge d'instruction et le chef de la sûreté. Convaincu que les magistrats s'égaraient absolument, il lui paraissait au moins inutile d'inquiéter le jeune homme. Lucien était un peu bronzé par le voyage, le grand air et le soleil, mais cette chaude teinte brune imprimait à son visage quelque chose de plus mâle et de plus énergique. Il se portait d'ailleurs à merveille, et sa joie de se retrouver auprès de sa bien-aimée Lucie lui donnait une surabondance de vie dont témoignait l'éclat de ses yeux, l'animation de sa parole et les vibrations de sa voix. Il revoyait la fiancée de son cœur, il la revoyait guérie, fraîche et souriante. C'était le bonheur. Que lui importait le reste? Il ne s'en préoccupait point, il n'y songeait même pas. Et dire que sans vous, Maman Lison, je ne l'aurais peut-être pas retrouvée vivante, s'écria Lucien en serrant dans les siennes les mains de Jeanne Fortier. Ah, vous êtes notre bon ange. Nous ne nous séparerons jamais de vous. Jamais. Jamais. Il se faisait raconter par le menu ce qu'il savait déjà, les détails de cette nuit sinistre où sa pauvre Lucie avait failli mourir. Et Maman Lison ne se lassait pas de répéter le même récit, toute frissonnante encore, comme si le drame de Bois-Colombes s'était passé la veille. « On n'a pas retrouvé le misérable assassin ?» demanda tout à coup le jeune homme.
« Non, » répondit Lucie.
« C'est étrange.
Pourquoi ? Il eût été plus surprenant de le retrouver. Un rôdeur de banlieue faisant partie d'une bande.
Mais ne parlons plus de cela. Je suis guérie. Tout est fini. » Seulement, quand j'aurai à sortir désormais le soir, je prendrai mes précautions.
Elle a raison, appuya Jeanne Fortier. Elle ne souffre plus. Elle est guérie. C'est le principal. Je suis sûre que vous êtes de mon avis.
Certes, et plutôt mille fois qu'une.
Eh bien, à table alors. Le dîner est prêt.
Nos trois personnages s'installèrent joyeusement autour de la petite table bien servie. La soirée passa trop vite. Lucien fut stupéfait en regardant sa montre de s'apercevoir qu'il était minuit. Rester plus longtemps était impossible, et le jeune homme se retira en promettant à sa fiancée de venir passer avec elle la journée tout entière du dimanche suivant. En regagnant la rue de Miroménil, Lucien pensait au complet bonheur qu'il venait de goûter, et presque malgré lui, dans la plénitude de sa joie, dans l'ivresse de son amour partagé, il pensait en même temps à la pauvre Mary qui l'aimait et qui se mourait parce qu'il ne pouvait lui rendre tendresse pour tendresse. Lucien Labrou, nous le savons, était un homme de cœur. Il éprouvait un chagrin profond de cette situation lamentable, mais il ne pouvait rien y changer. Le lendemain matin, à la première heure, il se rendit à Courbevoie pour y reprendre la direction des travaux. Paul Armand n'était point encore arrivé. Lucien profita de son absence pour se mettre au courant de tout ce qui s'était passé pendant les précédentes semaines et pour examiner les travaux en cours d'exécution. Vers 8 heures seulement, le père de Mary fit son apparition à l'usine. À peine s'était-il installé dans son cabinet que Lucien entra pour lui rendre compte de son voyage. Le millionnaire tendit la main au jeune homme de la façon la plus cordiale. « Je suis heureux de vous revoir, mon cher enfant, » lui dit-il. « D'autant plus heureux que j'ai à vous adresser de chaudes félicitations. Mes clients de Bellegarde m'ont écrit à votre sujet dans des termes singulièrement flatteurs. Il paraît que vos relations ont été excellentes. Je n'ai eu qu'à me louer de mes rapports avec ces messieurs. Ils ont été parfaits pour moi. Vous ont-ils adressé des propositions ?» demanda Paul Armand avec un peu d'inquiétude. « J'ai su par hasard qu'ils cherchaient un homme de mérite, capable de les suppléer. » « Peut-être, » répondit Lucien en souriant. « Si j'avais paru comprendre certaines paroles à double sens, ressemblant fort à des ouvertures, des propositions catégoriques m'auraient-elles été faites. Mais je suis resté impassible, et vous le savez, monsieur, il n'y a de pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. Je vous sais gré de n'avoir voulu ni entendre ni comprendre, et je vous prouverai ma reconnaissance. Vous êtes arrivé à Paris cette nuit ? Hier au soir. Vous êtes-vous ennuyé là-bas ? « Souvent, » répondit Lucien qui pensait à sa fiancée. Paul Armand ne le questionna pas davantage. Il lui convenait de ne paraître s'occuper en ce moment que des choses ayant un rapport direct avec l'industrie. La conversation s'engagea sur les plans que Lucien rapportait, plans de nouvelles machines à construire, qui nécessiteraient encore par la suite un déplacement d'ouvriers. L'entretien dura près d'une heure. « Il ne me parle point de ma fille, » pensait le millionnaire. À peine venait-il de formuler cette réflexion que Lucien lui dit. « Je ne vous ai pas encore demandé, monsieur, comment se porte mademoiselle Mary. » « Elle a été, elle, encore bien souffrante, » répliqua Paul Armand. « Gravement souffrante ? Assez pour me causer de vives inquiétudes. Vous la verrez et vous jugerez par vos propres yeux combien ces inquiétudes sont fondées et combien j'ai raison de vouloir à tout prix donner à mon enfant un peu de bonheur qui sera le salut pour elle. » J'ai annoncé à Mary votre retour, et sa première pensée ce matin a été pour vous. « Pour moi, monsieur ?» répéta Lucien avec contrainte, car il pressentait tous les ennuis de la fausse position dans laquelle l'amour de la jeune fille allait le placer. « Oui, elle veut célébrer votre arrivée. Elle vous attend ce soir à dîner avec moi. Et ce fut une fête de nous voir tous les deux en même temps près d'elle. Une vraie réunion de famille. » « Mais, monsieur, » balbutia le jeune homme. « Oh, pas d'excuses, pas de prétexte pour décliner l'invitation de ma fille, » interrompit vivement le millionnaire. « Vous ne pouvez mieux lui prouver votre sympathie qu'en acceptant cette invitation qu'elle m'a chargée de vous transmettre. En ce qui me concerne, j'ajouterai qu'un refus me peinerait beaucoup. Il s'agit d'un dîner absolument intime. Nous ne serons que nous trois. Vous quitterez l'usine un peu plus tôt, afin d'aller vous habiller chez vous, et vous viendrez nous rejoindre à l'hôtel. » Lucien, quoique fort contrarié du désir de la jeune fille, comprit qu'il ne pouvait répondre à ce désir par un refus inexplicable et blessant. Lucie avait fêté son retour. Mary voulait le fêter à son tour. Comme Lucie, elle l'adorait. Que n'eût-il pas donné de grand cœur pour se soustraire à la situation à la fois cruelle et ridicule d'homme trop aimé par deux femmes ? « J'accepte, monsieur, » dit-il.
et je serai très heureux de présenter mes respectueux hommages à mademoiselle votre fille. »
« À la bonne heure !» s'écria le millionnaire.
« Je vous savais d'avance incapable de causer un chagrin à Mary et à moi. »
Puis il ne fut plus question de la réunion du soir. La journée s'écoula en visite aux différents ateliers, et vers 4 heures, Lucien quitta Courbevoie pour aller chez lui se préparer à dîner à l'hôtel de la rue Murillo. Tout en montant la longue avenue de Neuilly et l'avenue de la Grande Armée, le jeune homme se sentait singulièrement sombre et triste. Il regrettait maintenant d'avoir accepté l'invitation qui, pendant de longues heures, allait le mettre en présence de Mary, dont il connaissait, dont il déplorait l'amour insensé. Qui sait si cette invitation n'était point un piège? Qui sait si Paul Armand n'allait pas lui renouveler devant sa fille les offres déjà faites? Cela étant, quelle contenance serait la sienne et que répondrait-il pour ne point paraître brutal? Sa réponse, adressée au millionnaire seul, était la chose du monde la plus simple. Il ne s'appartenait plus, il avait donné son cœur. Mais en face de Mary, aurait-il le courage de répéter ces 2 courtes phrases? Aurait-il la force de répliquer « Vous savez bien que j'aime Lucie, puisqu'elle vous l'a dit elle-même et que j'ai vu briller dans vos regards tous les feux de la jalousie. » Non, 100 fois non, je n'aurais point le courage de la torturer ainsi, pensait Lucien. Mais je ne puis non plus lui laisser croire que je l'aime. Il était 6h30 du soir lorsque le fiancé de Lucie arriva très ému et le cœur serré à l'hôtel de la rue Murillo. Paul Armand était rentré depuis 1/2 heure et ce fut lui qui reçut le jeune homme dans son cabinet de travail. « Ma fille nous attend au salon, lui dit-il. Allons la rejoindre. » Mary attendait en effet, et Dieu sait quelle fièvre d'amour faisait battre ses tempes. En soulevant le rideau de guipure de l'une des fenêtres, elle avait vu Lucien entrer dans la cour, et il lui avait fallu appuyer ses 2 mains sur son cœur afin d'en comprimer les battements. Elle éprouvait une joie immense, une indicible ivresse. Lucien, de retour à Paris, Lucien dans la maison de son père, c'était pour elle le salut, la guérison, la vie. 2 minutes s'écoulèrent, puis une porte s'ouvrit et Paul Armand parut sur le seuil, faisant passer devant lui son hôte. Mary voulut se lever et marcher à leur rencontre, mais la violence de son émotion détermina chez elle une sorte de défaillance. Elle chancela et retomba sur le siège qu'elle venait de quitter. En ce moment, sa pâleur était effrayante. Son père courut à elle. À l'aspect du visage amaigri et des traits altérés de la jeune fille, Lucien se sentit pris d'une immense et douloureuse pitié. Ses yeux devinrent humides. « Mademoiselle, balbutia-t-il, tu souffres, ma chérie ? » demanda le millionnaire. « Non, père, je ne souffre pas, » répondit Mary, que la voix de Lucien venait en quelque sorte de galvaniser. « Je ne souffre pas, au contraire. J'ai ressenti un étourdissement, ce n'était rien. C'est passé déjà. Je suis heureuse de revoir monsieur Lucien. Et il n'en doute point, car il sait que je l'aime, d'une amitié sincère. Je suis heureuse, après 1 mois d'absence, de lui serrer la main. » Elle tendit en effet la main au jeune homme, qui la prit, et la trouva brûlante de fièvre. « Moi aussi, mademoiselle, répondit-il avec un trouble involontaire, je suis heureux de vous voir. Oui, je vous assure, très heureux.
Vrai, bien vrai ? »
s'écria Mary avec un élan de passion. Lucien comprit qu'une froideur trop significative pouvait tuer cet enfant. Aussi répliqua-t-il vivement.
« Je vous l'affirme, je vous le jure !»
La figure de la jeune fille devint rayonnante. « Ainsi, poursuivit-elle, vous avez accepté mon invitation avec joie ?»«
Oui, certes, elle m'était précieuse à un double titre, étant le témoignage de l'amitié sincère dont vous parliez tout à l'heure, mademoiselle. » Et de l'estime que monsieur votre père veut bien m'accorder.
C'est plus que de l'estime, reprit Mary. C'est de l'affection que mon père éprouve pour vous. Il me l'a dit bien des fois.
J'en suis fière et reconnaissant. Pourquoi donc ne veniez-vous pas nous voir plus souvent?
Lucien, fort embarrassé de la tournure que prenait l'entretien, ne put que répondre en hésitant.
Je ne me croyais point autorisé. Il s'interrompit.
« À nous traiter en amis ?» acheva la jeune fille.
« À vivre avec nous sur un pied d'intimité ?»«
En vérité, monsieur Lucien, vous aviez bien tort.
Vous êtes un homme du plus grand mérite et un gentleman. Qui donc ne serait honoré de vous recevoir? Mon père, je le sais, vous regarde comme un autre lui-même. Il me laisse maîtresse d'agir à ma guise. Il approuve tout ce que je fais. Je profite de cette liberté pour vous dire, en son nom comme au mien, que votre couvert sera mis chaque jour ici et que nous compterons sur vous. N'est-ce pas, père?
Je n'ai qu'à m'incliner puisque tu es souveraine maîtresse, fit le millionnaire en souriant.
L'embarras de Lucien grandissait de minute en minute et se transformait en malaise.
Tant de bonté me rendent confus, bégaya-t-il.
Mary, prenant cette réponse pour un consentement, devint radieuse et s'empressa d'ajouter.
C'est convenu, et je compte aussi que vous nous accompagnerez souvent au théâtre. Mon père sera enchanté de vous voir me donner le bras pour me conduire à notre loge. N'est-ce pas, père?
Sans doute, ma chérie.
Alors, monsieur Lucien, c'est entendu aussi, n'est-il pas vrai?
Je suis dans une situation trop modeste, mademoiselle, pour accepter le rôle envié de votre cavalier.
Ceci est une défaite, monsieur Lucien, et je ne l'admets pas. En vous refusant, vous me feriez de la peine, beaucoup de peine, et je suis sûre que telle n'est point votre intention. Acceptez donc sans crainte, je vous promets de ne pas abuser.
Le visage de Mary exprimait une telle angoisse, l'intonation de sa voix devenait si suppliante que Lucien ne se sentit point la force de désespérer la jeune fille par un refus formel.
« J'accepte, mademoiselle, dit-il, mais les exigences du travail me laissent bien peu de liberté. »
Elle vous laisse du moins l'absolue liberté de vos dimanches, et je compte qu'à l'avenir vous voudrez bien nous les consacrer.
Lucien devint un peu pâle. Il pensait à Lucie, et déjà ses lèvres s'ouvraient pour répondre d'une façon carrément négative. Mary ne lui laissa pas le temps de prononcer un mot.
« Nous irons passer les dimanches à la campagne, avec mon père, » poursuivit-elle. « Cela vous fera du bien et vous reposera de la vie sédentaire menée par vous pendant toute la semaine. L'existence sans changement serait trop monotone. Il faut varier. Nos parties de campagne sont charmantes. N'est-ce pas, monsieur Lucien ?»
La fille du millionnaire avait prononcé avec une câlinerie adorable ses dernières paroles. Elle attendait une réponse affirmative. Mais Lucien venait de trouver un prétexte pour décliner la proposition.
« Mon Dieu, mademoiselle, dit-il, permettez-moi de vous faire observer que j'ai quelques amis qui me sont très dévoués et à qui je rends cordialement leur affection. Pour les visiter, pour entretenir avec eux des rapports auxquels je tiens beaucoup, je n'ai que le dimanche. Si je dispose de ce jour unique, je ne pourrai plus voir mes camarades d'enfance, et par cela même, j'encourrai leurs reproches et les miens. Ce qui, je ne vous le cache point, me serait très pénible. »
Tandis que Lucien disait ce qui précède, un nuage passait sur le front de Mary, ses yeux se voilaient, son cœur, mordu par la jalousie renaissante, se mettait à battre avec une violence désordonnée.
« Alors, monsieur, »
balbutia la pauvre enfant d'une voix à peine distincte, tant elle était basse et brisée.
« Alors, c'est un refus ?»
Paul Armand sentit l'effet désastreux que les paroles du jeune homme venaient de produire sur sa fille. Il essaya de l'atténuer.
« Lucien ne te refuse pas, ma chérie, » dit-il vivement. « Il te soumet une objection qui me paraît absolument juste. L'amitié impose des devoirs, et je l'estimerais moins s'il ne tenait à s'en acquitter. Il a besoin de quelques-uns de ses dimanches pour visiter ses amis. Nous ne pouvons prétendre à nous emparer de tout son temps. Sa liberté d'action n'étant point entravée, il nous reviendra avec plus de plaisir. N'est-ce pas, mon cher Lucien ? »
Le fiancé de Lucie ne pouvait s'empêcher d'éprouver une pitié profonde à l'endroit de la trop impressionnable jeune fille. Il donna la réplique docilement.
« C'est vrai de tout point, oui, monsieur, » dit-il. « Et mademoiselle Mary le comprendra, je n'en doute pas. »
Mary répliqua d'un ton triste.
« Je comprends que lorsque je donne mon amitié, je la donne sans arrière-pensée, sans restriction, sans partage, prête à faire joyeusement toutes les concessions et tous les sacrifices. C'est là, me semblait-il, un devoir. J'exagérais sans doute prête à tout donner, j'exigeais trop. Je tâcherai de devenir plus raisonnable, et je saurai me contenter de peu, puisque c'est ainsi qu'il faut être. » La pitié de Lucien redoublait. Ne sachant que répondre, il garda le silence. Le millionnaire intervint. « Vous vous entendez à merveille, » dit-il avec un entrain de commande. « Lucien fera, je l'affirme, tout ce qui dépendra de lui pour t'être agréable. »
« Vous pouvez en être sûr, monsieur, » répondit le jeune homme. « Et j'espère que Mademoiselle Mary n'en doute pas. »
Mary tourna vers Lucien ses grands yeux noyés de larmes. Leur prunelle d'un bleu profond comme celui du ciel avait une expression éloquente. Elle semblait crier. « Si vous saviez combien je vous aime, comme il serait bon de vous voir m'aimer ainsi. »
Sous ce regard parlant, Lucien se sentit frissonner de tout son corps. On vint annoncer que le dîner était servi.
« Offrez votre bras à ma fille, » dit Paul Armand.
Mary, palpitante d'amour, s'appuya sur le bras du fiancé de Lucie pour passer à la salle à manger. La table était couverte de fleurs.
« Vous le voyez, monsieur, » murmura la jeune fille avec un pâle sourire. « C'est jour de fête aujourd'hui chez nous. La fête de votre retour. »
Lucien pensait. « Comme faisait hier ma bien-aimée Lucie, elle célèbre mon retour avec des fleurs. Pauvre enfant, malgré cette tendresse immense que je vois, que je sens, dont elle m'enveloppe, je ne puis laisser aller vers elle mon cœur qui est tout à Lucie. » Le dîner ne fut point triste. En dépit de sa jalousie, Mary se trouvait heureuse d'avoir auprès d'elle l'homme qu'elle adorait. D'ailleurs, le maître de la maison faisait tout pour égayer le repas et il y parvint. Vers 10 heures, Lucien prit congé.
« N'oubliez point, » lui dit Mary, que demain votre couvert sera mis à notre table.
« Je m'en souviens, mademoiselle, » répliqua-t-il, « et soyez sûre qu'aucune de vos paroles ne s'effacera de ma mémoire. » Il partit. En se trouvant dehors, au grand air, il lui sembla qu'il avait un poids de moins sur la poitrine, et cependant, il se reprochait de n'avoir pas eu le courage d'une entière franchise. « Qu'adviendra-t-il de tout cela ? » se demanda-t-il en passant la main sur son front brûlant. « La situation n'est pas tenable. Ne serais-je pas obligé de quitter cette maison et de chercher ailleurs un emploi ? » Nos clients de Bellegarde m'ont en effet laissé comprendre qu'ils seraient heureux de m'engager. Mais les appointements seraient forcément bien inférieurs à ceux que Paul Armand me donne.
M'en aller si loin de Paris ? Lucie voudrait-elle me suivre ? Ai-je le droit de lui imposer un exil ?
Ne dois-je pas rester ici où j'ai l'espoir de relever un jour la maison de mon père ?
Pauvre Mary, je ne puis lui en vouloir de m'aimer. Ce n'est point sa faute. En m'éloignant, je la tuerai. Ne vaut-il pas mieux laisser la maladie de langueur, dont elle est atteinte, achever son œuvre? Les jours de la malheureuse enfant sont comptés. Le moment est proche où son amour ne sera plus une gêne pour moi.
Lucien entra chez lui très perplexe, n'ayant rien décidé, ne s'arrêtant à aucun parti. Il se coucha fiévreux et ne put trouver le sommeil. Paul Armand était resté seul avec sa fille après le départ de leurs convives. « Eh bien, chère mignonne, » lui demanda-t-il, « es-tu contente ? Crois-tu enfin que j'avais raison quand je t'ai dit qu'il viendrait et qu'il t'aimerait ?»
Mary pencha mélancoliquement la tête sur sa poitrine.
« Oui, il est venu, » répondit-elle, « et j'ai été heureuse. Mais je le suis moins à cette heure que je l'ai vu, que je l'ai entendu.
« Moins heureuse ? Pourquoi ?
Tout ce que tu lui proposais, il l'a accepté.
Donc l'idée de vivre dans notre intimité le séduit. »
« Tu te trompes. Il n'a pas tout accepté, » murmura la jeune fille.
« Je trouve très naturel qu'il ait voulu se réserver quelques heures pour aller voir ses amis. »
« Ce ne sont point ses amis qu'il ira voir, » répliqua Mary avec véhémence. « J'en ai le pressentiment, j'en ai la certitude. » S'il a cédé à quelques-unes de mes exigences, c'est que celle-là ne dérangeait rien à sa vie.
Il garde les dimanches que je lui demandais aussi. Il les garde pour les consacrer à celles dont il ne s'est point détaché. À celles qui l'éloignent de moi, qui me volent son cœur, et dont je suis jalouse.
Jalouse de cette Lucie ? S'écria le millionnaire d'un ton dédaigneux.
Oui, jalouse. Et pourquoi non ?
« Ah, tu ne sais pas, père, tout ce qui se passe dans mon cœur et tout ce que je souffre. C'est un feu qui me consume et qui me rend mauvaise. Il y a des heures où je vois rouge, des instants où il me semble que ma main est prête à s'armer pour frapper ma rivale. Oui, je deviendrai criminelle. Je tuerai cette Lucie. Lucie morte, il ne pourrait plus l'aimer.
C'est de la folie, cela, mon enfant.
Oui, car la jalousie tient de la folie, et je te le répète, je suis jalouse. À la seule pensée qu'il peut l'avoir, lui parler, lui dire qu'il l'aime, mon être entier se révolte. Ah, si je pouvais l'écraser, elle.
Voyons, Mary, calme-toi.
Me calmer? Est-ce que c'est possible?
Puisque je l'aime, est-ce que je puis imposer silence à mon cœur?
J'adore Lucien, je veux qu'il soit à moi.
Je ne veux pas surtout qu'il soit à une autre.
N'exagère rien, mon enfant. En toute chose, l'exagération est un mal.
Je comprends que tu souffres, et je ferai l'impossible pour calmer tes souffrances.
Compte sur moi.
D'ici à très peu de temps, tu constateras un changement nouveau et significatif dans la conduite de Lucien à ton égard. C'est lui-même bientôt qui pressera votre union.
Père ! S'écria Mary avec une sorte d'affolement. Les alternatives d'espérance et de déception me tuent.
Fais tout ce qui dépendra de toi pour mon bonheur.
Je travaillerai de mon côté à ce que Lucien m'appartienne.
Paul Armand fut effrayé de l'exaltation avec laquelle Mary venait de prononcer ces paroles.
Ne commets aucune extravagance, mon enfant, lui dit-il. Tu sais combien ta vie, ton repos me sont chers.
Encore une fois, sois calme et attends avec confiance le bonheur qui viendra. Je te le jure.
Mary ne répondit pas. Elle tendit son front à son père afin de recevoir un baiser et se retira. Tout en regagnant son appartement, le millionnaire pensait.
J'ai peur d'un coup de tête de Mary. Il faut le prévenir à tout prix. Demain, j'agirai.
L'enfant s'était révélé à lui tout à coup sous un aspect encore inconnu. La jalousie venait d'éveiller dans cette jeune âme des instincts de violence endormis jusque-là. Rentrée chez elle et le visage décomposé par la colère, la jeune fille pensait.
S'il faut lutter pour qu'il m'appartienne, je lutterai. Tous les moyens me seront bons, pourvu que la victoire soit au bout.
Mary passa une nuit terrible, nuit de souffrance, nuit de larmes, nuit de menaces pour Lucie, sa rivale. Elle dormit à peine et quand, à 8 heures, comme de coutume, sa camériste entra dans sa chambre, elle était déjà debout. La jeune fille s'habilla rapidement.
« Mon père est-il parti ? » demanda-t-elle.
« Oui, mademoiselle, depuis un instant. »
« Donnez l'ordre d'atteler. »
« Un coupé ou une voiture découverte ?»«
Un coupé. »
Mary termina sa toilette, attacha son chapeau, mit ses gants et attendit. Au bout d'un quart d'heure, la femme de chambre vint la prévenir que le coupé était attelé. Mademoiselle Armand quitta son appartement, monta en voiture et dit au cocher de la conduire au quai Bourbon. De son côté, le millionnaire avait passé une fort mauvaise nuit. Cette lutte de tous les instants pour l'existence de sa fille, existence qui dépendait, croyait-il, de l'amour de Lucien, le brisait, usait ses forces, consumait sa vie. Il partit donc avec l'idée bien arrêtée d'en finir sans retard et d'obliger le fils de Jules Labroux à accepter la main de Mary. Arrivé à l'usine de Courbevoie, il expédia vivement les affaires courantes, donna des signatures et fit appeler le directeur des travaux. Lucien se rendit en toute hâte au cabinet de l'industriel.
« Asseyez-vous, mon cher ami, » lui dit ce dernier. « Nous avons à causer longuement. »
Le jeune homme prit un siège.
« Laissez-moi vous remercier tout d'abord, » commença Paul Armand.
« Me remercier, monsieur ?» répéta Lucien surpris.
« Et de quoi ?»«
De votre manière d'être hier soir vis-à-vis de ma fille. »
Le fiancé de Lucie tressaillit et malgré lui son front se plissa. Allait-il donc être question de Mary ?«
Ma manière d'être, monsieur, répondit-il, était toute naturelle et résulte de la reconnaissante affection que je vous ai vouée ainsi qu'à mademoiselle votre fille. »
« Elle me prouve à moi, répliqua Paul Armand, que vous avez mis à profit le temps de votre absence et fait de sérieuses réflexions. »
« Des réflexions, monsieur ?
À quel sujet ?»
l'industriel poursuivit.
« J'ai été heureux de vous éloigner momentanément de Paris, pour vous rendre par l'isolement maître de vos pensées. Vous voici revenu, et nous devons maintenant parler à cœur ouvert, n'avoir plus rien de caché l'un pour l'autre. »
« Comment avez-vous trouvé ma fille ? » ajouta Jacques Garot dans une émotion toujours sincère quand il parlait de son enfant.
« Répondez en toute franchise. » Je l'ai trouvée un peu amaigrie, monsieur, et le visage altéré. Les médecins devraient, je crois, s'occuper sérieusement de son état de faiblesse.
Alors, sans être médecin vous-même, vous avez constaté son dépérissement croissant.
Malheureusement, oui, monsieur. Et pour ne le point voir, il faudrait être aveugle.
Le millionnaire appuya ses coudes sur le bureau et prit sa tête dans ses mains. Deux grosses larmes glissèrent entre ses doigts. Lucien se sentit très ému de cette douleur muette et poignante.
« Je vous afflige, monsieur ? » murmura-t-il.
Le constructeur releva la tête. « Ce n'est pas vous qui m'affligez, mon ami, » dit-il. « Ce sont les faits, c'est l'évidence. Oui, je ne le sais que trop. La vie de ma fille est menacée. La vie de mon unique enfant, que j'aime plus que tout au monde, qui est tout pour moi et sans laquelle je ne pourrais vivre.
Mary est en danger, les médecins me l'ont dit. Mais elle n'est point condamnée sans appel. À côté du mal, il y a le remède. Ce remède, c'est le mariage. »
Le mariage ? Répéta d'une façon toute machinale le jeune homme, péniblement impressionné de la tournure que prenait l'entretien.
Oui, continua Paul Armand, le mariage, qui, rendant à Mary le calme et lui donnant le bonheur, lui rendrait en même temps la santé. Mary a deux maladies. L'une, qui lui vient de sa pauvre mère et dont elle peut guérir. L'autre, qui lui vient de son cœur et dont vous êtes la cause. Celle-ci, se joignant à l'autre, la conduira promptement au tombeau, si vous êtes sans pitié.
Lucien frissonna. La conclusion à laquelle arrivait Paul Armand devenait lumineuse.
« Mon cher enfant, poursuivit le millionnaire, la vie de ma fille chérie, de cet être adoré, de cet ange qui a toutes les grâces, toutes les vertus, est entre vos mains. Je vous l'ai dit déjà, je vous le répète aujourd'hui. Je vous ai demandé de réfléchir. Je vous ai proposé de vous associer à ma fortune en vous donnant la main de ma fille. Aujourd'hui, cette fortune, je vous l'offre tout entière si vous sauvez mon enfant. La jalousie aggrave son mal. Elle va mourir si vous la repoussez. Puisque sans vous connaître et quand elle n'éprouvait encore pour vous que de la sympathie, elle a été votre protectrice et s'est servie de son influence sur moi pour vous faire entrer dans ma maison, ce qui assurait votre avenir, ne lui témoignerez-vous pas quelque reconnaissance ? N'aurez-vous pas de pitié ? La laisserez-vous mourir faute d'un peu d'amour ? Refuserez-vous de la prendre pour femme ?
Oh, monsieur, s'écria Lucien en proie à une émotion terrible. Si vous saviez combien ce que j'ai souffert depuis le moment où l'amour de Mademoiselle Mary m'a été révélé, vous auriez pitié de moi, je vous le jure. Ai-je manqué de franchise avec vous ? Ne vous ai-je pas dit quel était l'état de mon cœur ?
Oui, c'est vrai, vous me l'avez dit loyalement, répliqua le millionnaire. Mais j'ai cru qu'il s'agissait d'un de ces caprices qui ne comptent point dans l'existence, et quand ils sont passés, ne laissent pas même un souvenir. Est-ce que tous nous n'avons pas eu dans notre prime jeunesse des illusions folles ? Est-ce que nous n'avons pas tous pris un rêve pour la réalité ? Le réveil arrive et le côté sérieux de la vie s'impose. Vous n'éprouvez aucun sentiment passionné pour ma fille. Qu'importe ? Est-ce que l'amitié ne vaut pas l'amour ? Les mariages sans amour sont bien souvent les plus heureux. L'estime que vous inspire ma fille, la reconnaissance que vous éprouvez pour elle suffiront d'abord. Puis l'amour viendra, comme il est venu chez moi quand j'ai épousé la mère de Mary. N'hésitez plus. « Sauvez mon enfant !»«
Je n'hésite pas, monsieur, » répondit Lucien d'une voix grave. « Hésiter serait une trahison envers celle que j'aime. Je souffre de vous faire souffrir, et c'est le cœur brisé que je dois refuser, et que je refuse. »
Paul Armand fit un geste où la colère se mêlait à la douleur. Lucien poursuivit. « Tout à l'heure, vous me parliez de vous. Eh bien, vous, l'honnête homme, vous dont la loyauté est proverbiale dans le monde entier. » Si vous aviez aimé jadis une pauvre enfant, si vous lui aviez juré qu'elle serait votre femme, auriez-vous été parjure ? Auriez-vous trahi vos serments ? Auriez-vous enfin accepté de James Mortimer la main de sa fille, faisant passer votre ambition avant votre amour ? Répondez.
Et que voulez-vous que je vous réponde ? S'écria le millionnaire avec une sorte d'affolement.
Je ne sais qu'une chose, c'est qu'ici-bas ma fille est tout pour moi, et que ma fille va mourir si vous persistez. Le passé ne compte plus. Le reste du monde n'existe pas.
Calmez-vous, monsieur, je vous en supplie.
Me calmer ? Le puis-je ? L'existence de mon enfant est en jeu, et vous voulez que je sois calme ?
Ah, vous êtes sans pitié.
Eh bien, je n'hésite plus. Je sauverai Mary par vous et malgré vous.
Mais comprenez donc, fit Lucien, que si j'acceptais l'union que vous me proposez, ce serait le remords de toute ma vie.
Le remords ? Répéta Jacques Garot.
Comment ?
En sauvant Mademoiselle Mary, je tuerais celle que j'aime.
Et ? Répliqua l'industriel, paraissant céder à un entraînement irrésistible.
Celle que vous aimez est indigne de vous.
Lucien devint pâle.
Indigne de moi ? Fit-il d'une voix qui sifflait entre ses dents serrées.
Ah, ne me répétez pas cela, monsieur, sinon je croirais que l'amour paternel vous fait perdre la raison.
Il est heureux que je ne l'ai pas perdu pour vous sauver, pour sauver votre honneur.
Qui le met en péril ?
Le mariage, résolu par vous.
Mensonge ténébreux.
Vérité rayonnante, au contraire.
Mon amour pour ma fille m'a donné le courage de fouiller la nuit du passé. Vous me remercierez bientôt d'en avoir fait jaillir la lumière.
Paul Armand agissait en calculateur habile. Il retardait le coup décisif afin de le rendre plus irrésistible.
« Parlez, monsieur, parlez donc !» s'écria Lucien en proie à un véritable affolement. « En vous écoutant, il me semble que je fais un mauvais rêve. Pourquoi me torturer ? Que voulez-vous donc ?»«
Je veux vous empêcher de faire un outrage à la mémoire de votre père, » répondit Jacques Garot.
« Je veux vous arracher du cœur un amour honteux, déshonorant, sacrilège. »
De pâle qu'il était, Lucien devint livide.
« Est-ce de mon amour pour Lucie que vous parlez ainsi ? »
demanda-t-il d'une voix étranglée.
« Oui, » répondit le faux Paul Armand, « c'est de votre amour pour Lucie. »«
Et ?» reprit violemment Lucien, « c'est à propos de cet amour que vous parlez d'outrage à la mémoire de mon père ?»«
Oui, » répéta le millionnaire. « Expliquez-vous donc, monsieur. Expliquez-vous à l'instant. Je le veux, je l'exige. Si vous tardiez d'une minute, je croirais que vous forgez une calomnie pour me détacher de celle que j'aime. »«
Osez-vous donc me soupçonner ?» s'écria le père de Mary.
« De mensonges et de calomnies, oui, jusqu'à preuve contraire. Si vous avez des preuves, il faut les fournir. »«
J'en ai.
Je les attends. »«
Savez-vous quelle est cette Lucie à qui vous voulez donner votre nom ?»«
Oui, monsieur, une honnête fille. Une orpheline, déposée il y a 21 ans à l'hospice des enfants trouvés et inscrite sur les registres de l'hospice sous le numéro matricule 9. Le savez-vous ?»«
Je le sais, oui, monsieur. »
Mais que m'importe ? Ce n'est pas pour l'enfant abandonné qu'est la honte, c'est pour les parents coupables de l'abandon.
Soit, fit le millionnaire avec un rire mauvais.
Ce sont là des sentiments nobles et généreux. Mais vous n'avez pas cherché vous-même, et pour votre satisfaction personnelle, de qui était née cette fille et qu'elle s'en coulait dans ses veines ?
Encore une fois, que m'importe ? En admettant que ses parents soient indignes, pas une parcelle de leur indignité ne rejaillirait sur Lucie.
En vérité, l'amour vous affole.
C'est une folie, monsieur, dont je ne veux pas guérir.
Il faudra bien que vous en guérissiez, cependant, quand je vous aurai dit quelle est celle que vous songez à prendre pour femme.
J'attends que vous me le disiez.
Lucie est la fille de Jeanne Fortier, l'assassin de votre père, et, comme vous refuseriez sans doute de me croire sur parole, je vais vous en fournir la preuve irrécusable. »
Un cri sourd s'échappa du gosier contracté de Lucien. Le jeune homme se laissa tomber sur une chaise, les yeux hagards, tandis qu'un tremblement convulsif secouait tout son corps. Au moment où cette scène se passait à Courbevoie, dans le cabinet de l'industriel, un coupé de maître s'arrêtait devant la maison qu'habitait Lucie, quai Bourbon, numéro 9. Mary descendit de cette voiture, s'engagea sous la voûte, traversa la cour et, s'adressant à la concierge, lui demanda « Mademoiselle Lucie est-elle chez elle ?» La jeune fille reçut une réponse affirmative, gravit l'escalier et vint frapper à la porte de l'ouvrière. Celle-ci travaillait comme toujours. Elle déposa sur une table à ouvrage le morceau d'étoffe qu'elle tenait, quitta son siège et alla ouvrir. En voyant Mary, dont elle n'avait point oublié les paroles blessantes, elle recula avec surprise, presque avec crainte.
« Vous ?» « Mademoiselle, vous, chez moi »
balbutia-t-elle. Mary fit deux pas en avant. Elle semblait calme, mais résolue.
Lucie reprit pour se donner une contenance. « Vous venez voir sans doute si j'ai terminé vos costumes ?»
La visiteuse secoua la tête.
« Non, » fit-elle ensuite, « je viens causer avec vous d'une chose très grave.
Une chose très grave, répéta l'ouvrière qui sentait son inquiétude redoubler.
Oui, voulez-vous me permettre de m'asseoir ?
Oh, pardonnez-moi, mademoiselle, s'écria la jeune fille en présentant une chaise à Mary. L'étonnement me faisait oublier les plus simples convenances. Vous devez le comprendre.
Je le comprends, en effet, et je l'excuse.
La fille du millionnaire s'assit, puis regardant en face l'ouvrière, entama brusquement l'entretien par ces mots.
« Vous m'avez dit que vous étiez orpheline ?»«
Oui, mademoiselle. » »«
Ne connaissant pas votre famille, abandonnée par elle et élevée à l'hospice des enfants trouvés. »«
Oui, mademoiselle. » »«
Sans fortune, par conséquent. Sans autre ressource que celle que vous donne un travail assidu. »«
C'est vrai, mais je suis heureuse ainsi. » »«
Heureuse ?» répéta Mary d'un ton presque ironique. « J'en doute un peu. »«
Je vous assure, » commença Lucie.
« N'insistez pas, vous ne changerez rien à mes convictions. »
Lucie n'acheva point sa phrase.
« Eh bien, poursuivit la fille de Jacques Garot, je viens vous dire ceci. Je suis riche, moi, je suis très riche, et je veux assurer votre avenir. » La fiancée de Lucien comprenait de moins en moins et ne trouvait pas dans les paroles qui frappaient son oreille l'explication de la visite de Mademoiselle Armand.
« Assurer mon avenir ? » balbutia-t-elle.
« Oui.
De quelle façon ?
De la façon la plus simple et la plus large. Je vous offre un capital de 300 000 francs. » Ce fut au tour de Lucie de regarder Mary bien en face.
« Est-ce qu'elle devient folle ? » se demandait-elle.
« Vous avez entendu ? » fit Mademoiselle Armand.
« J'ai entendu, mais je ne comprends pas. »
« Pourquoi je vous offre une fortune ? »
« Précisément. »
Et vous pensez qu'au moment où je vous parle, je ne possède point toute ma raison, n'est-il pas vrai ? Lucie, en se voyant ainsi devinée, devint pourpre et garda le silence.
« Eh bien, vous vous trompez en croyant cela, » reprit Mary. « J'ai ma raison entière, et ce n'est pas d'une libéralité qu'il s'agit, mais d'un marché que je viens vous proposer. »
« Un marché ?
Tout à votre avantage, puisque grâce à moi, vous allez vous trouver riche. »
300 000 francs, pour qui ne possédait rien, c'est la fortune.
Expliquez-vous mieux, je vous en prie, mademoiselle, dit Lucie qui commençait à ressentir un peu d'impatience nerveuse.
Vous me parlez par énigme. Vous m'offrez une somme énorme, vous venez me proposer un marché. Quel est ce marché ?
Immédiatement, après avoir reçu la somme, que vous trouvez énorme, vous quitterez non seulement Paris, mais la France.
Quitter Paris ? Quitter la France ? S'écria l'ouvrière stupéfaite. « Mais pourquoi ?»
Mary fronça les sourcils et serra les dents.
« Pour que je ne vous voie plus !» répondit-elle d'une voix sifflante.
Lucie eut un mouvement d'effroi. Plus que jamais, elle croyait à la folie de sa visiteuse. La fille du millionnaire continua.
« Pour que je ne vous sente plus près de moi, dans la même ville. Pour que je ne vous trouve plus sur ma route à toute heure. Pour que ma vie qui s'éteint se ranime. Pour que je puisse enfin goûter le calme et le bonheur. »
Lucie s'était levée d'un bond.
« Ah ! » s'écria-t-elle en s'éloignant avec épouvante de Mademoiselle Armand. « Vous venez de me faire comprendre votre changement à mon égard, vos paroles blessantes, vos regards chargés tantôt de dédain, tantôt de haine. Vous êtes jalouse de moi ?»«
Oui, jalouse de vous !» répliqua Mary en levant à son tour les yeux pleins d'éclairs.
« Vous aimez Lucien ?»«
Je l'aime. » »«
Et vous comptez que pour calmer votre jalousie, pour donner satisfaction à vos caprices, je vais m'arracher le cœur. Vous comptez que je vais m'éloigner de Lucien en jurant de ne pas le revoir.
J'y compte.
Vous m'offrez 300 000 francs pour prix de ce sacrifice.
J'augmenterai la somme s'il le faut.
Et vous avez pu croire un instant que j'accepterais ce marché honteux?
Pourquoi le refuseriez-vous?
Pourquoi? Parce que j'aime Lucien. Je l'aime de toute mon âme, je l'aime de toutes mes forces. Je l'aime d'un amour qui doit vivre aussi longtemps que battra mon cœur. Et vous avez cru que ce cœur était à vendre?
Mais quel immense mépris avez-vous donc pour moi?
Eh bien, ce mépris n'est pas mérité. Je repousse avec horreur, avec indignation, le honteux marché proposé par vous. J'aime Lucien. Vous l'aimez aussi, qu'il choisisse. Sûr de sa loyauté, j'attendrai ce choix sans crainte. Et maintenant, mademoiselle, il me semble que nous n'avons plus rien à nous dire.
Au lieu de s'éloigner, la fille du millionnaire éclata en sanglots.
Elle se laissa tomber à genoux, puis levant vers Lucie ses mains suppliantes, balbutia d'une voix que les larmes rendaient presque indistincte. « Je l'adore, et je mourrai s'il ne m'aime pas. Ayez pitié de moi. Ne me le prenez point. Permettez-moi de vivre. » En face de ce désespoir de l'enfant que le doigt de la mort avait touché déjà, Lucie se sentit remuée jusqu'au fond des entrailles. « Relevez-vous, » dit-elle en prenant les mains de Mary. « Relevez-vous, mademoiselle, je vous en conjure. Non, laissez-moi vous implorer à genoux. Je vous demande la vie, le bonheur.